Radio Prague, les informations.
Des manifestants roms se sont opposés à une marche du parti ouvrier près de Teplice. Une agence de presse finlandaise révèle une fuite d'informations lors du sommet Union européenne-États-Unis à Prague. Et Václav Havel a critiqué Václav Klaus Lucci, c'était dans la presse. En Bohême du Nord, une quarantaine de membres du parti d'extrême droite, le parti ouvrier, a défilé à Kropka, près de la ville de Teplice, sous couvert de surveiller les environs à la demande des habitants. Deux sympathisants ont été arrêtés par la police pour leur comportement et les forces de l'ordre ont également confisqué des couteaux et des armes. La police a dû également intervenir pour éviter des échauffourées entre les militants extrémistes et une centaine de Roms venus s'opposer à leur marche. Parmi les personnes présentes pour surveiller la situation, le ministre chargé des minorités sortant, Michal Kotsap. Au début de l'année, le gouvernement avait essayé de dissoudre le parti ouvrier en vain. L'agence de presse finlandaise STT a révélé que des informations concernant des personnes participant au sommet Union européenne-États-Unis à Prague début avril auraient fuité via un ordinateur public dans un hôtel. L'agence aurait découvert l'information juste après le sommet auquel assistaient, je vous le rappelle, les représentants des 27 ainsi que le président américain Barack Obama. Ces données sensibles auraient concerné des numéros de passeport et de vol d'avion ainsi que les groupes sanguins et allergiques d'environ 200 personnes, dont plusieurs premiers ministres et présidents. La délégation américaine ne serait pas concernée. La porte-parole tchèque du ministre chargé des affaires européennes a reconnu qu'une erreur humaine a été commise par un employé de l'hôtel. Helsinki pourrait toutefois demander à Prague de lancer une enquête. Dans un entretien accordé au quotidien Ledovenovene paru samedi, le dramaturge et ex-président Václav Havel a sévèrement critiqué son successeur Václav Klaus pour avoir annoncé qu'il nommerait comme premier ministre la personne qui parviendrait à rassembler 101 voix au Parlement. Václav Havel a qualifié cette attitude d'insulte au Parlement et l'a comparée aux pratiques de la STB avant 1989. Václav Havel a au contraire exprimé son soutien au premier ministre sortant Mirek Topolánek et a critiqué les sociodémocrates pour leur vote de défiance à la Chambre en plein milieu de la présidence tchèque de l'Union européenne. Il a également appelé leurs électeurs à réfléchir à deux fois lors des prochaines élections législatives anticipées. Jusqu'au 19 avril, Olomouc accueille Academia Film, le festival du film scientifique organisé par l'université Palatsky. Il entend présenter des films à vocation scientifique, mais ne faisant pas pour autant l'économie de l'esthétique. Il s'agit de sa 44e édition. Et dans le cadre d'une présentation de la culture théâtrale française, Paris Calling, c'est une des œuvres de Milan Kundera, Jacques et son maître, qui est élu vendredi soir à Londres. On finit par la météo. Dimanche, jour de fête des Rostislav, le ciel restera encore bien couvert sur tout le territoire. Mais dès lundi, on attend une amélioration et une remontée progressive des températures. Celles-ci oscilleront autour de 15 degrés pour ce dernier jour de la semaine. C'est la fin du journal de Radio Prague, présenté par Anna Kubichta.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
Comment expliquer la constante modernité de l'œuvre de Marguerite Duras? Pourquoi les romans, les pièces de théâtre et les films de Marguerite Duras, qui a vécu entre 1914 et 1996, ne vieillissent-ils pas? Difficile de répondre à ces questions, car les œuvres de cette écrivaine, comme d'ailleurs toutes les grandes œuvres d'art, ne livrent pas facilement leurs secrets. C'est le théâtre de Marguerite Duras qui a été le sujet principal d'une rencontre organisée début avril au café de l'Institut français de Prague. Parmi les invités qui ont animé le débat, il y avait aussi l'écrivain et essayiste Arnaud Reckner. Il a évoqué la personnalité et l'œuvre de Marguerite Duras au micro de Radio Prague. Duras était célèbre quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a presque 50 ans. Est-ce que aujourd'hui encore, c'est une œuvre qui a lu, c'est une œuvre qui a quelque chose à dire à la réalité de notre temps?
Oui, ça reste une auteure vraiment mythique, complètement mythique pour la période d'aujourd'hui. Elle a fasciné toute une génération, effectivement, dans les années 60-70, mais ça continue de bouleverser, y compris les plus jeunes générations. Pourquoi ? Parce qu'elle parle du désir. Elle parle de la relation entre les individus, entre les hommes et les femmes en particulier, mais aussi entre les hommes et les hommes, et entre les femmes et les femmes, ça c'est une autre question. Mais du coup, c'est une auteure qui effectivement est lue, qui est jouée fréquemment. Son cinéma, en revanche, est moins souvent vu, et c'est ce qu'on peut peut-être regretter, alors que son cinéma reste révolutionnaire.
Marguerite Duras, elle était souvent considérée comme faisant partie du mouvement du nouveau roman. Est-ce qu'elle était une représentante typique de ce mouvement ou c'était quand même un personnage à part ?
Alors, on pourrait dire que tous les grands auteurs du nouveau roman sont des personnages à part. En fait, le nouveau roman les a aidés à émerger tous ensemble parce qu'ils contestaient les bases du roman ancien, même les bases aussi du théâtre ancien, d'ailleurs du théâtre traditionnel. Et ils se sont donc retrouvés à un moment en faisant tomber toutes ces barrières. C'est pour ça qu'on les a rassemblés les uns avec les autres. Mais en fait, si on regarde toutes les grands noms de ce mouvement, que ce soit Nathalie Sarraute, que ce soit Claude Simon, que ce soit donc Marguerite Duras, on s'aperçoit qu'ils sont tous très différents les uns des autres.
L'œuvre la plus célèbre de Marguerite Duras a été sans doute L'Amant. Est-ce que c'est une œuvre, c'est un roman qui est justement célèbre ou il a éclipsé un peu injustement le reste de son œuvre littéraire et de son cinéma, etc.
Alors si c'est une question personnelle, je répondrai personnellement que ce n'est pas mon œuvre préférée, loin de là, de Marguerite Duras, et que quelque part, effectivement, il y a une injustice à ce que ce soit cette œuvre-là qui était la plus reconnue. Et en même temps, c'était sans doute la plus facile pour le public, parce qu'elle racontait des souvenirs d'enfance, donc chacun peut aussi se retrouver dans ce rapport à l'enfance, mais d'une certaine façon, je pense que c'est une partie, oui, je le dirais, peut-être un peu dévoyée de l'œuvre de Duras. Je pense que la partie la plus duracienne de son œuvre n'est pas là. La partie la plus duracienne, ça serait du côté de Le ravissement de l'Olvestein, par exemple, ou une pièce comme Savannah et une autre pièce comme L'Amante anglaise. En même temps, l'intérêt de L'Amant, c'est que ça fait connaître Duras dans le monde entier, alors qu'elle était sinon un petit peu restreinte au cercle, disons, des lettrés français. Et elle a été connue vraiment dans le monde entier et beaucoup en Asie grâce à L'Amant.
Marguerite Duras a été écrivaine, elle était dramaturge, elle était aussi cinéaste. Laquelle de ces Marguerite Duras est pour vous la plus importante ?
Je pense qu'on ne peut pas les séparer, parce qu'elle a fait tomber les barrières entre tous les genres. Romancière, elle était déjà écrivaine de théâtre. Faisant du théâtre, elle était déjà cinéaste. Faisant du cinéma, elle faisait encore des romans. Donc elle a vraiment décloisonné. C'est pour ça qu'on ne peut pas la situer dans un genre ou dans un autre. Mais c'est aussi précisément parce qu'elle pratiquait les trois types d'écriture, on peut dire, qu'elle a renouvelé, qu'elle a vraiment fait la révolution, à la fois dans le roman, dans le théâtre et dans le cinéma. Pour le cinéma, elle a encore aujourd'hui une place un peu à part, parce que beaucoup de cinéastes, on peut dire quand même que le cinéma est dominé par Hollywood, par les critères hollywoodiens. Il est évident que Duras étant à des milliers d'années-lumière de cela, elle reste un peu marginale. Donc quand même, pour répondre à votre question, on peut dire que c'est peut-être dans le cinéma qu'il y a encore le plus de choses à découvrir de Duras. Elle a d'ailleurs dit une chose très belle, elle dit à un moment, on dit de moi que je dégoûte les gens du cinéma. Et elle précise, quel éloge. Finalement, pour elle, dégoûter les gens du cinéma tel qu'elle se fait, c'était un éloge. Parce qu'effectivement, elle ne se retrouvait pas dans les narrations, encore une fois, dans l'incarnation, dans la narration, dans une sorte de copie pas très belle de la réalité.
Dans ses pièces de théâtre et dans ses films, Marguerite Duras a imposé, on pourrait dire, l'art du silence, l'art des pauses qu'elle a mis dans ses pièces et dans ses films. Est-ce que on peut trouver quelque chose qui ressemble à ces silences aussi dans ses œuvres littéraires, dans ses écrits ?
Oui, complètement. Son écriture, c'est une écriture du silence. Les mots chez elle n'ont de sens que grâce au silence et en même temps font résonner le silence. Ce n'est pas une œuvre de langage pour la beauté du langage. Ce n'est pas le langage qui l'intéresse, comme tous ces écrivains-là. C'est beaucoup plus les relations entre les gens. Or, les relations entre les gens, notamment, passent d'abord par le silence. Donc, le langage, c'est une façon de faire ressortir le silence, de lui donner une épaisseur. Et c'est ça qui est le plus important chez elle, vraiment.
Qu'est-ce que Marguerite Duras a apporté à vous personnellement ?
Je pense que comme tous les grands auteurs, et pour moi j'en citerai peut-être 3 ou 4, elle change la vie. C'est vraiment quelqu'un qui change la vie des gens qui lisent ses œuvres. Il y a des milliers de personnes qui ont été bouleversées par, qui ont changé de vie après la lecture de L'Olvestein, du ravissement de L'Olvestein. Moi, c'est un petit peu la même chose avec L'Amante anglaise, que j'ai vue et revue, ou alors une autre pièce qui s'appelle Agatha. Après, on n'est plus le même, on voit les autres différemment, on voit le rapport à autrui différemment, le rapport au désir différemment. C'est un petit peu comme si on regarde le soleil. Quand on regarde le soleil de trop près, on a les yeux brûlés. Bon, bah avec Duras, c'est un petit peu comme ça. Il faut pas s'en approcher trop parce que c'est fascinant, c'est merveilleux. Et en même temps, c'est ce qui éclaire. C'est vraiment une œuvre qui change la vie. Je peux pas dire autrement.
Marguerite Duras demande à ses lecteurs et à son public aussi beaucoup d'imagination. Est-ce que le public et les lecteurs de notre temps, de l'époque audiovisuelle, est encore capable de répondre à cette attente ?
Alors, je dirais à la fois oui et non. Non, parce que ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'attention et un certain effort. Et c'est vrai qu'on n'est pas incité à cela, puisque les films nous donnent beaucoup à voir, justement, peu à penser, mais beaucoup à voir et beaucoup à entendre, alors que chez elle, c'est à l'inverse, il faut beaucoup imaginer, et on nous donne peu pour produire beaucoup, si je puis dire. Mais d'un autre côté, comme son œuvre est extrêmement visuelle, elle appelle la vision, une vision intérieure, mais elle appelle la vision, donc elle est complètement en phase avec son époque. Et d'ailleurs, les plasticiens européens ont pour beaucoup été très influencé par l'œuvre de Duras. Encore aujourd'hui, justement, même plus aujourd'hui, il la découvre aujourd'hui. Les vidéastes, par exemple, s'aperçoivent qu'elle a inventé leur art d'une certaine façon, parce qu'elle travaille avec peu d'images, et en même temps, ce peu d'images crée infiniment d'images. Peu de mots, et à partir de peu de mots, une multitude d'images, mais intérieures. Et comme elles sont intérieures, elles sont beaucoup plus véridiques, elles sont beaucoup plus authentiques, et en même temps, elles sont à nous. Donc c'est beaucoup plus intéressant.
Si je ne connaissais rien de Marguerite Duras, et si je voulais vraiment commencer à lire ses écrits, par exemple, qu'est-ce que vous me recommanderiez ?
Alors, je vais aller un petit peu dans le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être que je vous recommanderais L'Amant, même si pour moi ce n'est pas son œuvre principale, mais parce qu'il y a quand même quelque chose de Duras dedans, et c'est une œuvre plus facile, disons. En même temps, je pense que l'œuvre la plus intéressante, c'est Le ravissement de L'Olvestein. Avec peut-être du côté des pièces, L'Amante anglaise, et comme il se trouve que la pièce est jouée en Tchécoslovaquie en ce moment, c'est intéressant, je crois que L'Amante anglaise ou Savannah Bay, c'est une pièce bouleversante aussi sur l'amour, l'amour mère-fille. Peut-être que ce seraient les 3 œuvres que je recommanderais.
Arno Rickner nous a parlé de Marguerite Duras. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Virnochová, réalisation technique, et à Aleš Pezl, prise de son.
Le Tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Pour cette fois, c'est un tchèque du bout de la langue tranquille
v klidu
que nous vous proposons. Si vous aussi vous vous sentez gagné par une envie irrépressible de ralentir,
spomalit,
alors écoutez bien cette émission.
Pomalu a líně plyne říční prout, a líně, líně, líně musí prámy plout.
Dans une émission précédente, nous avions fait un bout de chemin avec un chef trop impatient, complètement
r.
Nous lui avions déjà suggéré de ne pas trop forcer sur le
choup, choup,
ce petit mot placé ça et là pour exprimer une volonté d'accélération. Pour cette fois, laissez-vous gagner par la force tranquille,
klidná síla,
et rejetons une bonne fois pour toutes les formules culpabilisantes telles que
kdo pozdě chodí, sám sobě škodí,
soit qui arrive en retard cause du tort à soi-même. Nous avons reconnu le verbe
škodit,
soit nuire, porter préjudice, et dont est dérivé le très courant
škoda,
c'est-à-dire dommage. C'est pourquoi nous préférons proposer une formule plus humaine
kdo pozdě chodí, žije si schutí,
soit qui arrive en retard, vie avec goût. Maintenant que nous avons notre motto, nous pouvons élaborer un état des lieux des expressions relatives à la lenteur en tchèque. Quelques images pour commencer. À une personne lente, de préférence quand elle est en train de manger, on peut poser la question
Jíš rybu?
Soit tu manges du poisson, sans doute parce qu'il s'agit là d'une activité lente par excellence de par sa précision. On peut aussi lui dire, et cette expression peut également être utilisée dans certaines situations, qu'elle est comme un film au ralenti.
Jak zpomalený film.
Et si on veut exaspérer notre chef, de la dernière fois, à la question
Kdy to bude?
C'est pour quand, au lieu de lui servir du tout de suite, on peut lui répondre
Až naprší a uschne.
C'est-à-dire quand il aura plu et que ça aura séché. On ne peut pas dire que les Tchèques soient des grands flatteurs de la lenteur. Les expressions de la lenteur sont basées sur le verbe
táhnout,
c'est-à-dire s'étirer, se traîner, et ça commence donc bien. Ensuite, on peut décrire cet étirement, ce traînement, grâce au pauvre escargot qui doit avoir les oreilles qui sifflent, et ce dans toutes les langues, à force d'entendre dire
táhneš se jako šnek,
soit tu te traînes comme un escargot. Au passage,
schneck
est un mot assez utile au moment de lier des connaissances avec des Tchèques quand on est français, puisqu'il n'est pas rare de l'entendre dans une des premières questions que l'on vous posera, à savoir si vous en mangez. On peut se traîner comme un escargot, mais on peut aussi se traîner comme une mauvaise odeur.
Táhnout se jako smrad.
À la question « Pourquoi une mauvaise odeur ?», on nous a expliqué que c'est parce qu'une mauvaise odeur, ça reste et ça persiste, ça se traîne en quelque sorte. On constate la connotation négative assez évidente de la lenteur tchèque, comme si une mauvaise odeur se traînait plus longtemps qu'une odeur agréable. Et puis on peut aussi se traîner comme une volée d'oie.
Táhnout se jako hejno hus.
Et tout ça, enfin, avant de terminer avec une de nos expressions préférées.
Táhne se to jako pondělí.
C'est-à-dire, ça se traîne comme un lundi, sans aucun doute parce que le lundi est la journée de reprise du travail et qu'une semaine complète se présente devant nous avant un nouveau week-end. C'est donc sur ce petit éloge de la lenteur que se referme ce tchèque du bout de la langue. En attendant de vous retrouver dès la semaine prochaine, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím, ahoj.
Courrier des auditeurs. Alain Slivinski.
Après une assez longue pause, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter la rubrique de la semaine entièrement consacrée à vos lettres, cartes postales, rapports d'écoute ou divers messages que nous avons reçus de votre part ces derniers temps. Place donc à la traditionnelle boîte aux lettres. Nous allons commencer par la lettre de nos amis Frédéric et Hervé Briand de Talence, dans le sud-ouest de la France, car elle traite vraiment d'un sujet d'actualité, la crise économique mondiale. Nos amis nous écrivent « L'information que vous avez donnée sur la prime à la casse, qui ne se fera pas en République tchèque, peut nous interpeller. En effet, la raison invoquée est le niveau de production record des constructeurs tchèques, qui n'arrivent plus à satisfaire la demande de pays comme l'Allemagne, la France et la Slovaquie. » Cela peut paraître paradoxal, car l'industrie automobile française et ses sous-traitants subissent de plein fouet la crise. Question, quels sont les types de véhicules produits en République tchèque qui bénéficient de cette situation? Petite voiture économique, moyenne gamme ou haut de gamme? Là j'en doute. Le plus gros constructeur automobile tchèque est Škoda Auto, et son modèle le plus demandé actuellement est la Fabia. D'ailleurs, sa publicité passe souvent sur les chaînes de télévision françaises privées. Škoda Auto semble bien se porter aussi dans les autres segments, car elle a repris la pleine production de tous ses modèles, le haut de gamme aussi, avec la Superbe. Elle prépare même la fabrication de son premier 4x4 de l'histoire. Pour ce qui est des autres petites cylindrées, elles sont produites par le groupe TPCA, Toyota Peugeot Citroën Automobile, dans son usine qui se trouve à Kolíně, à environ 100 km à l'est de Prague. Elle fabrique les modèles suivants, la Citroën C1, la Peugeot 107 et la Toyota Aygo. Le troisième constructeur de petites voitures économiques est Hyundai et son usine de Nošovice en Moravie du Nord. Elle compte surtout sur les i30 en version break, qui devrait être le modèle destiné à minimiser les effets de la crise. Ce constructeur semble avoir été le moins touché, car il a même relancé l'embauche. Ajoutons encore que, certes, la prime à la casse n'a pas été introduite encore en Tchéquie, mais que le projet est prêt et pourrait être mis en application à l'automne prochain, puisque nous parlons de la Moravie du Nord, un peu de musique folklorique de cette magnifique région.
Oni sa nerozsypali do vody. Ach, môj Bože, a kto mne ich pozbíra, když ja nemám na Moravie frajíra. Ach, môj Bože, a kto mne ich pozbíra, když ja nemám na Moravie frajíra.
Nous remercions bien sincèrement Fabien Battesti de Lambersart dans le nord de la France pour ses informations sur deux expositions liées à la République tchèque dans le cadre du festival Lille 3000 Europe XXL. À Lambersart et à Tourcoing, les expositions étaient consacrées à Krechki, un groupe de designers spécialisés dans une nouvelle conception d'objets usuels, principalement en verre et porcelaine. Notre ami Battesti tient à préciser, cependant, que ces deux expositions étaient intéressantes du point de vue de la présentation du savoir-faire tchèque, mais j'ai trouvé un peu dommage qu'elles ne présentent qu'une vue quelque peu étriquée de ce savoir-faire. Nous enverrons naturellement le plus vite possible les QSL confirmant les rapports d'écoute que notre auditeur nous a envoyés et qui nous indiquent une bonne réception dans sa région. Comme beaucoup d'autres auditeurs, Émile Christian Duchim de Yaoundé au Cameroun nous a fait part de la satisfaction qu'il a éprouvée en écoutant nos programmes du week-end de Pascal, surtout un peu de musique quand même, le lundi. Il nous écrit « Merci pour le bonheur partagé en ce lundi de Pâques. En écoutant la musique proposée dans la rubrique, je me suis senti en pleine harmonie avec la mélodie, le rythme et le tempo en raison de la vivacité des instruments et des musiciens. » Sincèrement, je crois que c'est le plus grand cadeau que Radio Prague ait pu nous servir à Pâques. Félicitations pour la bonne cause. Merci de ces paroles encourageantes à notre ami de la lointaine Afrique et nous lui dédions pour cela un peu de musique du pays. Un grand merci à Roger Roussel du Canada, plus exactement de l'Acadie et de la très belle carte postale de cette région. Il recevra sous peu les QSL confirmant ses rapports d'écoute. Philippe Marsan est au rendez-vous comme d'habitude et nous le remercions de la carte d'Arcachon et des rapports d'écoute. Le reste de sa lettre sur les antennes sera présenté dans le 73 de Radio Prague. Nous avons bien noté le changement d'adresse de notre auditeur Daniel Lautret qui habite désormais à Gevrey-Chambertin. Une très belle région viticole, ma foi. Pour la fête du club Lorrain, le dernier week-end de juin, nous avons fait le nécessaire auprès des services techniques et vous recevrez, cher ami Marcel Le Serre, de la documentation et autres pour la célébrer dignement. Avant de nous quitter, nous vous invitons à participer au concours 2009 de Radio Prague, dont voici les conditions.
Radio Prague lance un nouveau concours à l'intention de ses auditeurs. La question du concours est la suivante. Quelle date, Quelle époque ou quel événement de l'histoire tchèque vous a le plus impressionné? L'auteur de la meilleure réponse sera récompensé par un séjour d'une semaine pour deux personnes à Prague. Les auteurs d'autres réponses intéressantes gagneront des cadeaux et des objets offerts par Radio Prague. Les meilleures réponses seront publiées dans nos émissions et sur notre site web www.radio.cz pendant le week-end du 27 au 28 juin 2009. Vous pouvez tenter votre chance et nous envoyer vos réponses jusqu'au 12 juin 2009 à l'adresse suivante. Český rozhlas 7, Radio Prague, Vinohradská 12, 120 99, Prague 2, République tchèque. Vous pouvez aussi les envoyer par courriel à l'adresse suivante, cr@radio.cz. Le grand prix pour le gagnant est offert par le sponsor du concours, l'hôtel Ungelt, hébergement au cœur de Prague.
Il est maintenant temps de refermer notre boîte aux lettres et à la semaine prochaine sur Radio Prague pour une nouvelle édition avec une ou un de mes collègues.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.